franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour, Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Rien n'est grave, sauf la mort. Cette phrase qu'on peut lire ce matin dans les colonnes du Parisien, on la doit à Anne-Marie Amilat. Elle a 66 ans et elle est l'une des plus anciennes greffées françaises cœur-poumon. C'est en 1988 qu'elle s'est fait opérer et à l'époque, les médecins lui avaient dit que le taux d'échec d'une telle transplantation était de 50%. Mais j'ai préféré retenir les 50% de réussite, confie-t-elle, tout en précisant que depuis, elle a toujours gardé le même état d'esprit, voire le positif dans toutes les situations, même quand c'est difficile. Anne-Marie Amilat est donc une optimiste, et c'est elle, d'après le quotidien, c'est elle qu'il faut suivre, il faut suivre son exemple.
Connaissant Marie-Jeanne Pierre-Veille.
La France broie du noir et Pierre-Veille de temps en temps aussi. Osons donc l'optimisme, lance à sa une le journal, car oui, il y a toujours des raisons de se réjouir, estime même le secrétaire de la Ligue des optimistes de France. J'avoue que je ne connaissais pas l'existence de cette Ligue, qui compte notamment parmi ses adhérents l'écrivain Éric Orsenna. D'ailleurs, statistiquement, les bonnes nouvelles sont plus nombreuses que les mauvaises, et c'est pour cette raison qu'un Parisien de 29 a récemment lancé le site l'optimisme.com, un site qui ne présente que des infos positives. On y lit notamment que le panda géant n'est plus une espèce en danger. On y lit que 10 groupes français sont dans le top 100 de l'innovation mondiale. Et puis sur le site, on peut aussi écouter des chansons qui remontent le moral. Et si on essayait le bonheur, renchérit Jean-Marie Montali dans son édito. Et dans le dossier, on apprend que positiver, c'est en prime très bon pour la santé. D'après une étude publiée l'an dernier, les personnes optimistes souffrent moins que les autres de maladies cardiovasculaires. Un dessin politique illustre le propos. Un dessin de rançon montrant François Hollande qui lance tout sourire. Il faut être optimiste, ça permet de vivre plus longtemps. Et en face, il y a Manuel Valls et Jean-Christophe Cambadélis. Ce mec va tous nous enterrer, commente le Premier ministre. Et le patron du PS, inquiet. Mais qui ça, nous? Il va enterrer qui? Nous, les socialistes? Et de fait, chez les socialistes, c'est le pessimisme qui domine, comme l'explique Nathalie Schuch dans les colonnes du Parisien.
À gauche, beaucoup n'y croient déjà plus, c'est le titre de son papier.
Papier dans lequel on découvre cette citation d'un ténor du PS. Si Hollande est réélu, on pourra le canoniser et l'appeler Saint-François parce qu'il aura vraiment accompli un miracle. Pour les proches du chef de l'État, l'échappée belle d'Emmanuel Macron aura bien été le coup de grâce. Et tous s'interrogent aujourd'hui sur la conduite à tenir face à lui. Certains ne pensent qu'à une chose, c'est le détruire politiquement. D'autres, à l'inverse, préconisent de tenter au plus vite une réconciliation afin de récupérer l'électorat du centre et les jeunes. Surtout ne pas couper les ponts, c'est notamment ce que pensent Julien Drey et Manuel Valls. Mais dans le journal du dimanche, le même Manuel Valls étrit son ancien ministre, d'après lui, la stratégie d'Emmanuel Macron. Stratégie de populisme light, dit-il. Cette stratégie aboutit et aboutira à détruire la gauche. Un Premier ministre qui se dit par ailleurs très inquiet des danger de la primaire à gauche. Mais il prévient qu'il sera derrière François Hollande si jamais celui-ci se représente. Je serai solidaire. Je ne sauterai pas du navire, dit-il. Et là, on ne peut s'empêcher de penser au Titanic. Mais dans le JDD, ce matin, un autre sujet fait la une.
Oui, c'est une enquête consacrée aux musulmans de France.
Comment vivent-ils? Et quels sont leurs rapports à l'islam, à la société, à la politique et aux lois de la République? Voilà donc les questions auxquelles tente de répondre cette étude, commandée à l'IFOP par l'Institut Montaigne, un cercle de réflexion privée d'obédience libérale. Enquête qui surprend, titre l'hebdomadaire, en précisant que les chiffres donnés doivent être pris avec prudence. L'enquête surprend notamment parce que les musulmans de France seraient moins nombreux qu'on ne le dit, entre 3 et 4 millions. Pour le reste, cette enquête rassure en montrant l'adhésion dominante des musulmans français aux valeurs républicaines. D'ailleurs, les laïcs sont très majoritaires chez les musulmans, mais un tiers des personnes interrogées, surtout les plus jeunes, pratiquent un islam rigoriste. Et c'est cela qui inquiète, selon le journal, la radicalité croissante des jeunes musulmans français. Une radicalité qui, parfois, peut même amener au pire. La une de Sud-Ouest ce matin ne pousse pas à l'optimisme.
Oui, elle est même sérieusement alarmante. Djihadiste, la menace du retour.
Les autorités craignent un retour massif sur notre territoire des Français enrôlés par Daesh. Plusieurs dizaines d'entre eux sont d'ailleurs déjà rentrés. Plusieurs dizaines, nous dit Sud-Ouest, 203 précise David Thompson sur le site lesjours.fr. Depuis 2012, des centaines de Français sont donc partis rejoindre des groupes djihadistes et d'après les chiffres officiels, 689 sont encore sur place, 195 autres ont été tués et donc 203 sont rentrés, souvent usés par la réalité qu'ils ont découverte en Syrie, en Irak ou en Libye. Et ce sont ceux-là dont nos confrères nous racontent l'histoire ce matin. C'est l'épisode 4 de sa passionnante série Les Revenants. Rencontre avec Zouber, jeune Français de 20 ans, de retour de Syrie. Il décrit l'une des obsessions des étrangers qui rejoignent le groupe État islamique, en l'occurrence, trouver une femme. Voire plusieurs, c'est possible. D'ailleurs, dès qu'il est arrivé, un autre Français l'a prévenu. Les gens qui veulent se marier, vous prenez une photo avec deux calaches et ensuite je vous promets que vous allez pécho. Quand il était en France, Zouber n'avait jamais eu de succès avec les filles, mais il a vite eu l'impression que le djihad l'avait transformé en beau gosse. Selon son témoignage, l'une des activités principales des combattants étrangers, c'est la drague sur Internet. Ils sont tous connectés H24 à chercher des femmes, et ils se marient tous à la fin, dit-il, en précisant que beaucoup ne sont partis que dans cette optique, trouver une femme sur Internet et la faire venir en Syrie, sachant que lorsque l'un d'eux se marie, il quitte alors les casernes et il peut emménager dans un appartement individuel payé par l'organisation. Une fois sur place, les femmes ont l'obligation de porter le sitar, un voile intégral qui couvre même les yeux, contrairement au niqab qui les laisse entrevoir. En revanche, sur les réseaux sociaux, certaines des aspirantes à l'émigration n'hésitent pas à se dévêtir, et parfois totalement, afin de séduire les combattants, dont certains ne pensent donc qu'à cela. Zouber, lui, voulait épouser une ado de 15 ans, une jeune Française avec laquelle il échangeait chaque jour sur Internet. Elle a réussi à rejoindre la Syrie, expliquant qu'elle n'avait pas envie de faire le ménage, mais qu'elle était venue pour se battre. La pauvre, elle se retrouvait dans une situation délicate, se souvient-il. Elle a été mariée à un homme de 30 ans. À la fin, elle voulait repartir de Syrie, mais l'émir du groupe l'a obligée à rester.
Dur d'être optimiste également à la lecture de l'excellente revue « Sans froid ».
Laquelle nous alerte sur un désastre écologique. Une forêt tropicale quasiment rayée de la carte. Il s'agit de la forêt tropicale de Bornéo en Malaisie. L'une des plus anciennes et surtout l'une des plus belles forêts de la planète. Paradis pour la faune, paradis pour la flore, mais c'est un paradis définitivement perdu. Et on connaît le coupable, Abdul Taïm Mahmoud, le gouverneur du Sarawak, l'un des deux états malaisiens de l'île de Bornéo. C'est donc le trimestriel « Sans froid » qui nous narre les méfaits de cet homme devenu l'un des plus riches d'Asie, une fortune estimée à plus de 15 milliards de dollars, amassée grâce à l'exploitation de la jungle, et ce au mépris de toutes les règles internationales, pot de vin, favoritisme, intimidation de ceux qui osent protester. Taïb et sa famille dynastique malaisienne ont détruit la forêt sans le moindre scrupule, une jungle tropicale décimée en 30 ans. Et pour le magazine, il s'agit là du plus grand crime écologique du XXe siècle.
Allez, plus léger pour finir, vous êtes d'accord Frédéric ?
Je suis d'accord.
Dans le sport également, il ne faut jamais céder au pessimisme.
Par exemple, pour les JO de 2024 que Paris voudrait accueillir, si on lit l'équipe magazine, on se dit que c'est presque gagné. Seules deux villes pourraient au final concourir, Los Angeles et Paris. Or, à Los Angeles, certains remettent en cause l'intérêt économique du projet. En somme, on y croit. Enfin, tous les journaux s'inquiètent pour l'avenir de l'équipe de France en Coupe Davis de tennis. Elle est menée 2-1. Il faut gagner les deux prochains matchs. Les Bleus condamnés à l'exploit. Ben, je sais pas vous, moi j'y crois.